scientifique de l'armée Versailles. Et bien sûr, ça vous le savez. Et depuis 2010, il est membre du comité de pilotage du programme de recherche sur les garde-meubles en Europe. Alors ça, ça doit être pour le travail. Hein. Et depuis novembre 2012, il est membre du comité consultatif des collections du Centre des Monuments Nationaux. Mais comme ça ne suffisait pas, il a été élu en 2013 membre du comité des travaux historiques et scientifiques de la section archéologie et histoire de l'art des civilisations médiévales et modernes. Je me demande, mon cher Stéphane, quand dormez-vous? Depuis 2016, ça ne suffisait pas, il est devenu membre de la nouvelle commission d'acquisition des musées nationaux. Voilà. Donc c'est un homme riche d'expérience qui va vous parler ce soir et qui va vous parler d'un joli sujet, de tous ces jolis papiers venus d'extrêmement bien.
Merci à vous, merci pour votre présentation, merci d'être venus nombreux. Et effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui a été assez peu travaillé en France, les papiers peints de Chine qui ont fait l'objet d'études en Angleterre, mais en France, le sujet est resté un peu à l'écart des grandes recherches sur les objets et les importations venant de la Chine. Donc je vais vous présenter une synthèse un peu de, comme le dit le titre, de ce qui est importation, commerce et ses acteurs et les usages de ces papiers peints chinois en France au XVIIIe siècle. Alors les papiers peints de Chine ont été connus en Europe dès le XVIe siècle, à la suite des premiers contacts avec l'Extrême-Orient. On a ramené quelques feuilles, mais les importations régulières n'ont vraiment commencé qu'au siècle suivant, avec la création des grandes compagnies des Indes en Angleterre en 1600, en Hollande en 1602, et puis la petite dernière en France qui est née en 1664. Alors c'est surtout au XVIIIe siècle que les volumes ont vraiment augmenté, quand le gouvernement chinois a autorisé les vaisseaux de ces compagnies à aborder directement en Chine, à Canton. Alors cet accroissement reste tout de même à relativiser, et les quantités de papier peint importés demeurent toujours anecdotiques dans les cales des vaisseaux des différentes compagnies des Indes, tant en raison de leur volume que de leur valeur. En effet, les différentes compagnies des Indes européennes faisaient leur plus importante marge bénéficiaire sur les étoffes principalement, sur les épices, sur les bois et un petit peu sur les porcelaines. Mais le papier peint chinois restait vraiment très, très marginal, ce qui explique pourquoi il est rarement mentionné dans les mémoires de commerce, par exemple, ou dans les rapports de la Compagnie des Indes. Alors, la fabrication de ces papiers peints en Chine est connue grâce aux rapports des jésuites qui ont été envoyés au XVIIe siècle. Alors, il existait deux qualités de papier. Celui fabriqué à base de coton de très belle qualité qui était destiné au noble usage de l'écriture. Et celui qui nous intéresse était réalisé à partir d'écorces de bambou ou d'autres arbres, comme des écorces de mûrier, d'orme ou de cotonnier. Plus grossier, ce papier servait pour justement la fabrication des papiers peints. Alors l'abbé Guillaume Thomas Rénal précisait que l'écorce, je cite, « après avoir pourri dans les eaux bourbeuses, sont enterrées dans la chaux. On les blanchit au soleil et des chaudières bouillantes les réduisent en une pâte fluide qui est étendue sur des claies, d'où il sort des feuilles de 10 à 12 pieds, c'est-à-dire entre 3,20 m et 3,90 m, et même davantage. » Jean-Baptiste Dualde mentionne l'usage de moulins pour broyer les écorces et ajoute qu'on trempe chaque feuille de papier dans de l'eau d'alun qui tient le décolle. Cet alun empêche le papier de boire, donc éviter qu'il ait cet effet de buvard pour pouvoir peindre finement dessus. Alors dans son mémoire intitulé « Observations sur les mœurs et les coutumes des Chinois, leur commerce et leur navigation », M. Gênes de la Chancelière, qui était lieutenant de vaisseau, le comte de Toulouse, qui est parti de l'Orient le 6 novembre 1733 et qui est revenu le 12 juillet 1735, il faut quasiment 2 ans pour faire l'aller et le retour en Chine, en vaisseau à voile au XVIIIe siècle, à peu près 6 mois pour l'aller, 6 mois pour le retour, et le reste du temps sur place pour évidemment faire la cargaison, les factures, etc., etc. Et évidemment charger le navire. Alors ce monsieur de la Chancelière remarquait que le papier de Nankin était le plus estimé. C'est aussi de là que viennent ceux qui sont les mieux peints. Il ajoutait que les inventails, les papiers peints, se trouvent toujours à Canton et par conséquent à portée d'être embarqués quand on veut. Ces produits d'exportation, d'exportation par excellence, tout ce qui est papier, papier peint, éventail, feuilles, etc., se trouvaient donc en stock immédiatement disponibles dans le seul port ouvert aux Européens. Ainsi, fabriqués par avance dans les manufactures chinoises et non sur commande à partir de motifs fournis par les Européens, comme ça pouvait être le cas pour les porcelaines, par exemple, son vocabulaire décoratif était cependant occidentalisé pour l'exportation, puisqu'en effet, les Chinois et les Orientaux en général tapissaient plutôt leurs intérieurs de papier blanc et non peint. Alors l'exportation du papier de la Chine était un commerce ancien et au XVIIe siècle, les commerçants chinois en apportaient au Japon. L'Europe s'en fournissait sans doute dans leurs comptoirs indiens, dont vous avez ici une gouache qui est conservée au Victoria et Albert Museum et qui présente très certainement une boutique une de ces boutiques chinoises sur les côtes indiennes qui vend que des produits orientaux. Alors c'est un petit peu flou, je suis désolé, mais on peut tout de même reconnaître, vous voyez ici, des... Non, vous ne voyez pas, donc je vais utiliser ça. Vous pouvez... Non plus. Ouais. Vous pouvez reconnaître ici des porcelaines, plus particulièrement des porcelaines bleues et blanches que vous avez là. Vous avez ici des lacs sur fond noir ou sur fond rouge. Et enfin, les papiers peints chinois que vous pouvez remarquer sur ce paravent, mais également accrochés au mur, de même qu'un ensemble d'éventails ici posés autour du petit groupe assis par terre. Les compagnies des Indes achetaient le papier peint soit en feuilles, soit mis en œuvre, principalement sous forme de paravent ou d'éventail. Et on voit sur ce projet de dessin pour un éventail qui représente très probablement la première cargaison de l'Amphitrite qui est revenue en France en 1700. Il était parti, ce vaisseau était parti en 1698. Et c'est le premier bateau qui partit de France à aborder directement à la Chine. Alors on peut voir ici sur le comptoir 5 éventails qui sont particulièrement... Voilà, je vous agrandis le détail. Vous voyez ici les 5 éventails et sur le... Alors c'est fromage ou dessert, soit on a le pointeur, soit on a... voilà, non, je suis désolé, mais soit on a le pointeur, soit on a l'agrandissement. Donc vous voyez sur la gauche, sur le comptoir, les cinq éventails. Et ce qui est très probablement sur la droite, la caisse posée par terre, contenait très certainement les feuilles de papier peint. En effet, les exportations s'effectuaient généralement sous feuilles de 80 cm de large environ et d'une longueur variant de 1,50 m à 2 m. Alors ces feuilles étaient soit disposées comme ça les unes sur les autres en caisse, soit roulées en rouleau. Le tout, bien sûr, mis dans des caisses pour d'abord les protéger. Les feuilles, c'est fragile, ça se déchire, ça peut s'arracher, pour éviter qu'ils se coupent aussi, également, pendant la manipulation, et pour éviter qu'ils prennent l'humidité et que les vers l'attaquent. Je cite, en effet, ne pas oublier que les fonds de cale des vaisseaux étaient toujours humides, et donc il fallait protéger ces objets et ces pièces plutôt délicates. Alors les chiffres pour les importations sont assez lacunaires et généralement peu précis. On ne sait pas trop s'ils témoignent de la cargaison d'un seul vaisseau ou de toute la flotte qui revenait de retour des Indes et donc permettent seulement de calculer des ordres de grandeur. Ainsi, au retour de son premier voyage en Chine, cet Amphitrite a rapporté 6 rouleaux de peinture et 107 morceaux de peinture. Dans les années 1730 à 1740, les importations de papier peint chinois oscillaient entre 600 et 1200 feuilles pour une année. Et de 1750 à 1773, les volumes ont atteint entre 1000 et 3600 feuilles. Alors 3600, ça peut paraître beaucoup, mais sur une flotte de 6 vaisseaux, ce n'est pas grand-chose comparé aux dizaines de milliers de pièces de porcelaine qui étaient rapportées de Chine. Donc vraiment, les papiers peints chinois restent quelque chose de très très marginal dans le commerce des compagnies des Indes. Alors, les paravents de la Chine sont un des éléments importés, je vous remontre ici la le paravent, ici un tableau de Boucher qui est conservé au musée Thyssen Bornemisza de Madrid, et voilà un agrandissement. Vous voyez sur le fond à droite un paravent sur fond or, orné de branches de fleurs et d'oiseaux. Alors ces paravents apparaissent rarement dans les cargaisons, sans doute en raison de leur fragilité et de leur encombrement. Quand vous prenez de la place, n'oubliez pas que ce sont des compagnies commerciales, il faut faire le maximum de bénéfices, et donc pour un même volume, autant mettre des marchandises qui ont une marge bénéficiaire plus importante. En 1685, le rédacteur du mémoire pour le négoce de Siam constatait, je cite, « Il vient des paravents de la Chine qui sont par feuilles, hein, c'est-à-dire par venteaux. Les plus propres pour la France sont de 6 à 8 feuilles. Ils sont ordinairement faits de papier fort, qui est une espèce de vélin ou de taffetas. Il y en a peint de figures grotesques du pays et d'autres brodées. Il est de la prudence de celui qui agira et qui sait le dessin de ne rien prendre que de beau et de bien fini. Comme il y en a de plusieurs hauteurs, il faut observer que ceux de 4 à 5 pieds de haut, soit 1m30 à 1m60, sont les meilleures sortes pour la France. Il n'en faut que 5 ou 6 ou plus pour une épreuve, c'est-à-dire pour un essai. En effet, prudent, il conseillait de n'en charger que quelques-uns et de la meilleure qualité, sans doute afin d'évaluer les risques au cours de la traversée déjà et pour voir si leur débit était assuré à l'arrivée. Visiblement, l'expérience a confirmé ses craintes, car au XVIIIe siècle, seuls 2 paravents ont été apportés par les vaisseaux les Dauphins et Laverdy à l'Orient en 1772, d'après la liste des cargaisons que l'on conserve pour le XVIIIe siècle. Alors les éventails permettent de revenir à ce dessin et qui nous donne donc une illustration de ces objets. Les éventails ornés de papier chinois appartenaient à ces petits objets d'importation, peu coûteux, très séduisants et d'un encombrement et d'un coût réduit à l'achat sur place et la vente, leur vente était assurée. L'anglais Charles Lockyer, qui a voyagé en Orient, remarquait au début du XVIIIe siècle que les éventails s'achètent plus avantageusement dans les boutiques que par contrat, à moins que vous n'en apportiez des patrons d'Angleterre, c'est-à-dire des modèles pour les dessins des papiers, et que vous puissiez rester jusqu'à ce qu'ils soient faits. Toujours ce problème du temps, car en effet, les vaisseaux ne devaient pas rater les alizés pour le retour, sinon ils se retrouvaient coincés dans l'océan Indien. Alors comme pour les feuilles de papier peint, ces éventails étaient donc fabriqués par avance et les facteurs des différentes compagnies des Indes sur place à Canton les achetaient dans les boutiques, ce qui leur faisait gagner un temps précieux. Ensuite, dans les cales, ils étaient disposés partout où on avait de la place, donc dans les boîtes, mais également vous avez ici dans les tiroirs des cabinets de lac que vous avez là, par exemple. Bref, toute la place possible était utilisée pour charger les marchandises. Alors, aucun chiffre n'est donné pour ces éventails. Ils n'apparaissent jamais dans les comptes, ni dans les cargaisons, les listes des cargaisons des vaisseaux. Ils étaient sans doute importés par centaines, mais hélas, on ne peut pas connaître le volume exact de ces importations. Alors, les motifs de ces papiers peints nous sont connus, alors moins par les documents commerciaux et les listes des cargaisons, qui en décrivent rarement les décors. On n'est pas là pour décrire ce qu'il y a, mais rapporter rapidement la nature de la marchandise, donc porcelaine des Indes bleu et blanc ou de couleur, et papier peint de la Chine, ça suffit largement pour les rédacteurs. En revanche, ces décors sont généralement plutôt indiqués dans les inventaires et dans le livre journal du marchand mercier Lazare Duvaux. Lazare Duvaux est un grand marchand mercier parisien et son livre journal couvre les années 1748 à 1758. Il a fourni Louis XV, il a fourni Madame de Pompadour, il a fourni la haute noblesse, et donc son livre journal, qui est tout simplement un document commercial dans lequel il enregistrait toutes ses opérations, est extrêmement précis et donne une source d'une richesse absolument extraordinaire à tous les points de vue. Et alors, lui-même cite, les papiers peints d'ornement apparaissent assez ponctuellement, par exemple dans son journal, et on a entre 1749 et 1752, il mentionne des feuilles jonquilles unies sans ouvrage dessus, c'est-à-dire jaunes unies, des fonds blancs à nuées bleues, donc sorte de nuages un peu, et les dernières blancs et bleus à ramages. Ces motifs demeuraient assez minoritaires chez ce Mercier et composaient 8,5% des papiers cités, des papiers chinois cités dans son journal. De même, le garde-meuble de la couronne a acheté le 1er décembre 1741 12 feuilles à pot de fleurs et 50 autres à grillage ou à mosaïque. Donc vraiment des choses plutôt décoratives. Alors les papiers les plus appréciés et les plus connus encore de nos jours sont ceux avec un décor de fleurs et ou de fleurs et d'oiseaux. Alors dès 1686, le roi de Siam, Phra-Narai, avait offert à Louis XIV deux grandes feuilles en forme de perspective. Dans l'une sont toutes sortes d'oiseaux de la Chine et dans l'autre des fleurs, dans l'esprit de ceux que je vous montre là sur l'écran. Ces papiers peints de fleurs et ceux ornés de fleurs et d'oiseaux connurent un grand succès au XVIIIe siècle. Et entre 1748 et 1758, Lazare Duvaux décrit dans son journal des papiers peints à fleurs, à vases et à fleurs et à camaïeux, ceux à fond blanc et à fleurs et oiseaux, et eux entraient pour 41% des papiers peints chinois qu'il a vendus. Donc c'est vraiment une grande part de ces papiers peints chinois. Alors ces papiers se caractérisaient par leur fond clair, généralement soit bleu pâle, jaune pâle, ou vert pâle, sur lequel se détachaient en arrière-plan des grandes branches de bambou peint en blanc, comme vous pouvez le voir. Au premier plan, vous aviez au contraire les motifs principaux disposés dans la partie basse et avec des couleurs plus vives, et donc ce contraste entre l'arrière-plan clair mettait en valeur justement et donnait une impression un peu de profondeur avec ce premier plan beaucoup plus coloré. Et vous avez des effets de dégradé de gris qui perdent progressivement leur intensité dans les hauteurs du papier peint. Alors dans les papiers peints d'oiseaux, des volatiles divers très colorés marchent sur le sol et s'accrochent aux branches. Vous avez là trois exemples, comme les précédents, de papiers peints qui sont conservés au musée de la Compagnie des Indes à Lorient. Et qui vous montre vraiment la splendeur de ces papiers, toujours sur ce même principe, un arrière-plan plutôt pâle, et qui met en valeur les premiers plans. La terre est vaguement évoquée, le sol est vaguement évoqué par des dégradés de gris, et vous avez tout un ensemble d'oiseaux de la Chine, des faisans dorés, des perdrix, etc., qui se détachent par leur vive polychromie sur ce fond. Alors, plus c'est riche de couleurs, et évidemment, plus c'est spectaculaire et séduisant et cher. C'est assez classique. Alors, il n'y a pas d'autres effets de profondeur que ces deux plans, l'arrière-plan et le premier plan sur ces papiers peints. L'autre grand type de décor était les décors à personnages, généralement qualifiés de papier à pagode ou à magot. Alors ces termes désignaient de manière un peu condescendante les figures dessinées selon l'esthétique orientale. Les pagodes apparaissaient plus généralement debout et les magots désignaient plutôt des personnages assis. Alors faute de détails, il est difficile de préciser si les termes à figure désignaient des feuilles représentant un personnage ou bien plusieurs, ou encore des scènes figurées, comme vous avez ici sous les yeux. Les archives du garde-meuble de la couronne décrivent quelques thèmes ou activités représentées, indications quasi inexistantes par ailleurs. Ainsi, en octobre 1740, le journal de cette administration enregistrait l'entrée de 66 feuilles de papier de la Chine représentant des figures à pied et à cheval qui combattent, ou alors des travaux de campagne. Vous avez également des enfants qui travaillent et qui se jouent dans la campagne, des Chinois en bateau dans un fond de paysage, des figures chinoises qui combattent à pied, à cheval, sur un fond sablé et argenté. En mai 1748, donc 8 ans plus tard, Lazare Duvaux livra pour le cabinet en entresol de Madame Henriette à Versailles des papiers peints représentant, je cite, « des figures chinoises différemment occupées sous des berceaux de fleurs du pays, de plusieurs couleurs, ayant par le bas des espèces de jalousies ». À Marly, Louis XV avait préféré tapisser son cabinet intérieur de papier peint représentant divers ouvrages et marchandises du pays, donc une appellation assez vague. Et ces descriptions témoignent d'une part de la variété des sujets, mais demeurent descriptives en raison de l'ignorance des rédacteurs des usages de la Chine qui ne peuvent identifier, ni le sujet représenté, sachant si est-ce que ça représente la la culture du riz, par exemple, ou bien un épisode romanesque ou historique. Alors, ces papiers peints figurés se caractérisaient par un décor beaucoup plus complexe que ceux avec les oiseaux et les fleurs. Et si ceux du garde-meuble se distinguaient par la diversité de leurs thèmes, les papiers qui subsistent de nos jours représentent principalement des travaux pour la culture du thé ou du riz, la mise en œuvre de la soie ou encore la fabrication de porcelaine. Vous avez là sous les yeux deux panneaux de papier peint d'un ensemble de 7 à décor de personnages fabriquant de la soie, travaillant le riz, peignant les porcelaines ainsi que des aveugles dans un paysage montagneux. Ce papier est passé en vente à Drouot en décembre 2012. Vous avez ici un ensemble de 3 panneaux sur 7 qui sont conservés au musée du Louvre et qui, eux, représentent la fabrication et le commerce de la porcelaine de Chine. Et vous pouvez voir ici, par exemple, la... J'essaie d'agrandir. Une boutique de porcelaine avec ses différents rayonnages. C'est un décor qui, vous voyez, est beaucoup plus foisonnant avec cette perspective qui se superpose, les différents plans se superposent sur toute la hauteur du papier. On n'est pas du tout dans la même logique que les papiers peints à fleurs et oiseaux. Alors, d'autres papier peint, vous avez ici, j'étais un peu vite, un papier peint qui se trouve encore en place au château de la Roche-Guyon en Normandie et qui représente la vie d'un village traversé par un fleuve. Vous avez dans la partie basse ici des bateaux et ici les maisons avec un occidental ici sur une terrasse et là un chinois qui prend le thé avec un occidental. Sur ces deux barques, juste en dessous, vous avez les détails d'une dame chinoise qui allaite son enfant et sur la droite, un occidental qui fume la pipe également dans une jonque. Alors, à l'égard des papiers peints à motifs de fleurs et d'oiseaux, ces papiers peints figuratifs entraient dans 41% des livraisons du Mercier du Vaud. Donc vraiment à égalité avec les fleurs et oiseaux, ce qui étaient les deux papiers les plus vendus sur le marché. Alors les papiers peints à fond d'or ou fond d'argent, qui est la production la plus luxueuse et qui généralement représente des fleurs et des oiseaux, voilà encore le détail de ce tableau de Boucher, et vous voyez dans le fond ce fond d'or et d'oiseaux. Alors si le fond d'or résultait de la classique application de feuilles d'or sur le papier, le fond d'argent faisait appel à un autre procédé qui n'employait pas de feuilles d'argent. C'était un mélange de colle de peau de bœuf, d'alun blanc et d'eau qui était appliqué sur le papier après sa cuisson, puis uniformément enduit de talc en poudre. Après séchage, un polissage au coton produisait un effet argenté spectaculaire sans l'inconvénient de l'oxydation des feuilles d'argent. Alors les papiers à fond doré ou argenté étaient assez rares sur le marché européen. En 1738, un projet de cargaison pour un vaisseau destiné pour la Chine suggérait l'achat de 500 feuilles de papier peint à personnages, oiseaux et fonds or et argent. Vous voyez toujours ces deux papiers les plus appréciés, personnages et à oiseaux, sans qu'il soit possible de savoir si la transaction a effectivement eu lieu. Et peu de merciers en proposaient. En 1736, à sa mort, le mercier Julio avait 25 grandes feuilles de papier des Indes à fond d'or dans son stock. Pour sa part, Lazare Duvaux n'en mentionne que 6 dans son journal, donc 6 sur 10 ans, c'est vraiment très très peu, et un seul à fond d'argent. En 1740, le garde-meuble de la couronne a réceptionné 25 feuilles sur fond sablé et argenté et 2 paravents à 4 feuilles sur fond d'argent. Donc on est vraiment là, ce paravent représenté par Boucher est une rareté sur le marché européen, très, très certainement en raison de son coût et de sa fragilité. Alors les autres types de tableaux représentaient des motifs isolés, plutôt à encadrer. et sont généralement encore plus minoritaires que les précédents. Lazare Duvaux a ainsi employé des papiers peints représentant des paysages, des boîtes et des armoires, des menuiseries ou encore des papiers peints sur gaz, je cite, de paysages et de figures. Certaines feuilles représentaient des sujets indépendants, propres à garnir un dessus de porte ou à être encadrés comme un tableau de chevalet, tels les 107 morceaux de peinture mentionnés dans la cargaison de l'Amphitrite en 1700. Enfin, les 7 grands portraits de d'hommes et 5 de femmes de la Chine, sur papier du pays, présents en 1708 dans le garde-meuble du château de Versailles, étaient très probablement, dans le même esprit que ceux que je vous montre actuellement, qui ont été peints avant 1763 et font partie d'une collection particulière belge. Alors c'est très probablement ce type de portrait qu'importa la Compagnie des Indes en 1731, avec ses 3 caisses de figures peintes sur papier, ou encore les tableaux de papier peint encadrés vendus en octobre en 1755. Alors ces tableaux représentaient également, vous aviez des fleurs, des oiseaux ou des scènes animées de la vie chinoise, comme ici par exemple donc, ces fleurs et ces oiseaux, là un ensemble de guerriers ou bien des Chinois montant des éléphants. Alors il est assez amusant de voir que malgré leur succès indéniable, il y avait cependant une certaine réserve vis-à-vis des peintures, et cela dès le XVIIe siècle. L'auteur du mémoire pour le commerce de Siam, rédigé en 1685, constatait que les papiers étaient peints de figures grotesques. 26 ans plus tard, l'anglais Lockyer expliqua avec pertinence les raisons de leur succès, malgré tout. Je cite, « Les peintures sont estimées pour la vivacité et le brillant des couleurs, la variété des figures et l'habileté dont elles sont dessinées. Les fantaisies ridicules prennent toujours bien, et en vérité, je n'en ai jamais vu de sérieuses qui valussent une épingle. » Il touche de très pesamment et tout l'ouvrage n'a point de ces ombres gracieuses en quoi excellent les peintres d'Europe. En effet, aux yeux des Occidentaux, pétris des canons esthétiques classiques européens, les peintures chinoises obéissant au contraire aux canons esthétiques développés en Orient apparaissaient maladroits dans le traitement de la figure, de la perspective ou bien des ombres et des lumières. Cependant, la variété, l'originalité des sujets, la clarté et la gaieté des couleurs compensaient cette prévention et envers ces productions qui étaient avant tout appréciées pour leur exotisme et leur grand pittoresque. Alors la Compagnie des Indes vendait des papiers peints avec le contenu des cargaisons des vaisseaux aux enchères à Nantes puis à Lorient à partir de 1735, et selon les calculs de Louis d'Hermigny, qui a beaucoup travaillé sur le commerce sur les importations de la Compagnie des Indes, les marchands parisiens, nantais et ceux de l'Orient achetaient à eux seuls près de 80% des papiers peints importés. Or, sachant qu'une partie de ces commerçants de l'Orient et de Nantes étaient des commissionnaires pour les marchands parisiens, on voit qu'une grande majorité de ces papiers partaient vers la capitale. Alors, les procès-verbaux de ces ventes, essentiellement conservés pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, mentionnent en effet seulement 8 marchands parisiens et d'Arnaud, qui est le fournisseur des filles de Louis XV à Bellevue plus particulièrement, et le seul grand marchier parisien célèbre à apparaître en 1767. Les autres années, il avait très certainement recours à des commissionnaires et à des agents à Lorient, ce qui évitait le coûteux voyage jusqu'à Lorient. Alors, les prix. La Compagnie des Indes, à Lorient, vendait les feuilles de papier peint chinois entre 2 et 3 livres en 1737 et en 1741. Sachant que le salaire journalier d'une personne sans qualification ou d'un domestique était de 1 livre par jour, vous voyez, donc il faut 2 jours de travail pour un domestique, pour s'il avait envie de s'acheter une feuille de papier peint des Indes. En revanche, les prix augmentent comme toujours, et dans les années 1760 et 70, une feuille se débitait entre 3 et 10 livres, les plus belles pouvant atteindre jusqu'à 19 livres. Et en 1766, le prix de vente était 4 fois et demi plus élevé que celui de l'achat, mais dès l'année suivante, la marge bénéficiaire diminuait beaucoup. Donc ces aléas expliquent en partie pourquoi la Compagnie des Indes n'a pas vraiment importé énormément de papier peint de Chine. Les archives et les procès-verbaux de vente précisent très rarement les motifs ou la présence de fonds d'or, ce qui fait qu'il est difficile d'affiner plus précisément quel était le coût de ces papiers. En revanche, chez les merciers, qui possédaient peu de papier peint de la Chine dans leur stock, et les inventaires demeurent également assez rarement précis, surtout à propos de leur format. Seul le livre journal de Lazare Duvaux, dont je vous ai parlé, apporte beaucoup de précision à ce sujet. Et voilà un tableau fait d'après les prix pratiqués par les merciers, en fait surtout par Lazare Duvaux. Et vous voyez que, en raison de leur simplicité, les papiers peints décoratifs se vendaient dans la fourchette basse. Mais un décor de belle qualité, tel celui formant l'embris posé dans la garde-robe de Louis XV à Bellevue en 1753, atteignait 12 livres. Alors les papiers peints à fleurs et ceux à fleurs et oiseaux occupaient la fourchette supérieure avec un prix oscillant entre 2 et 12 livres pour la production moyenne. On peut monter jusqu'à 30 à 36 livres, telles les feuilles peintes à vases et à fleurs très beaux posées chez la Dauphine ou dans la garde-robe de Louis XV à Bellevue. Les papiers peints ornés de scènes figurées étaient vendus entre 1 et 9 livres, donc on est à peu près dans la même fourchette que celle des fleurs et des oiseaux, et pouvait monter jusqu'à 24 livres, mais on voit un parallèle vraiment avec le papier des fleurs et d'oiseaux, ce qui confirme la réserve des amateurs et des acheteurs vis-à-vis de ces papiers représentant des figures humaines. Enfin, les rares papiers à fond d'or que l'on peut croiser dans les stocks se débitent à 6 livres la feuille, quand même une somme assez importante, et pouvait monter jusqu'à 8 livres et même jusqu'à 24 livres pour celles ornées de boîtes et d'armures qu'a vendu Duvaux. Alors, une des rares mentions auparavant de papier chinois importé, donc je vous ai dit, apparaissait en 1772, avec deux auparavant vendus 72 livres en pièces, ce qui est finalement assez peu. Peut-être était-il abîmé, on ne sait pas. Alors le papier peint chinois, vous voyez, demeurait une marchandise assez onéreuse compte tenu de la nature de son matériau et de sa fragilité. Une feuille de papier ornée de motifs décoratifs coûtait plus cher qu'une tasse ou qu'une assiette de porcelaine de Chine vendue une livre. Les prix compris entre 3 et 10 livres des feuilles de papier peintes de fleurs, d'oiseaux ou de figures équivalaient à ceux d'un pot à l'eau avec sa cuvette de même porcelaine. Alors si les feuilles les plus coûteuses n'atteignaient tout de même pas les prix des vases de porcelaine et des lacs, cependant leur usage en demandait plusieurs, ce qui augmentait le prix des décors et des meubles fabriqués avec les papiers de la Chine et ne les mettait pas à la portée de toutes les bourses. Malgré cela, leur succès ne se démentit pas tout au long du XVIIIe siècle dans les intérieurs. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, l'abbé Rénal estimait à propos des papiers peints que l'Europe a emprunté de l'Asie l'idée d'en meubler les cabinets et d'en composer les paravents. Cet emploi dans les intérieurs, effectivement, appartenait à une ancienne tradition en Extrême-Orient, et l'importation de paravents ainsi couverts et de grandes feuilles de papier peint diffusèrent ou encouragèrent cette pratique en Occident dans les années 1730, une pratique qui se développa au cours de la décennie suivante. Alors, en l'absence de livres journaux d'autres grands marchands merciers du XVIIIe siècle, celui rédigé par Lazare Duvaux demeure l'unique témoin de l'activité commerciale d'un seul individu en ce domaine. Il reflète cependant les tendances dans les usages et les pratiques liées à l'emploi du papier peint chinois à Paris pendant ces 10 années d'exercice. Alors dans le décor, l'utilisation du papier peint chinois comme décor mural représente près de la moitié des fournitures de Duvaux. La grande hauteur des feuilles ou leur superposition permettait de couvrir la hauteur des murs pour composer des décors de qualité, originaux et tout de même moins coûteux que des damas de soie et surtout les boiseries. Alors si les papiers dominotés de taille réduite et peu coûteux étaient collés à même le mur après sa préparation pour obtenir une surface unie, les papiers peints de grande qualité, tels ceux de la Chine, étaient posés sur une toile tendue. Comme vous pouvez voir là un cadre qui subsiste au château de La Roche-Guyon. Vous avez ici le cadre et une toile tissée assez lâche, tendue sur un cadre de bois lui-même placé dans un encadrement de boiserie. Cette technique permettait d'éloigner le papier de l'humidité du mur en plâtre, donc c'était excellent pour sa conservation, et parfois on pouvait avoir même une sous-couche entre le papier chinois et cette toile. Le fait qu'il soit placé sur des châssis mettait également le papier peint au même niveau que les boiseries et évitait un petit écart entre le balambris et le papier peint. Alors les papiers peints directement collés sur le mur étaient considérés comme immeubles et ceux collés sur châssis comme meubles, ce qui explique la mention de ces derniers dans les inventaires après décès. Le nombre de ces châssis variait en fonction de la taille de la pièce et de la disposition des fenêtres et des portes, évidemment, qui entraînait le découpage de panneaux plus petits. Ainsi, dans ce cabinet de la Roche-Guyon, décoré de papier peint, de fleurs et d'oiseaux, Duvaux, pour donner une idée un peu de la disposition, pour ce type de cabinet, Duvaux livrait entre 3 et 36 châssis, ce qui est un nombre moyen, généralement, était entre 3 et 12. Il ne pouvait parfois fournir que les dessus de porte, mais vous voyez ici que si vous avez des grands panneaux avec deux types de papier peint, un papier peint soit de fleurs et de papillons ou bien de fleurs et d'oiseaux, et vous voyez que pour les dessus de porte, on a tout simplement coupé la partie basse d'un papier peint de ce type pour placer le motif principal en dessus de porte que vous avez ici en détail sur la gauche. Ces ensembles se composaient de feuilles peintes généralement d'un même sujet, tels les cinq châssis représentant oiseaux, frôleurs et branchages livrés par Duvaux en avril 1748 pour la garde-robe du dauphin à Versailles. Et vous avez là, par exemple, quatre laits qui sont passés chez Christie's Monaco en juin 2011. Et vous remarquez que chaque lait peut se suffire à lui-même. Pour des raisons de raffinement et esthétique, on pouvait faire des raccords peints pour unifier les laits et les relier les uns aux autres, comme sur ce papier peint à motif de fleurs et branchages qui se trouve au château d'Elbrun en Autriche, où vous pouvez remarquer ici un papier peint qui n'appartient pas à la même série, mais on a quand même malgré tout peint ici des branches en prolongement, de même que là, pour donner une illusion de continuité et une illusion de grands panneaux panoramiques. En mai 1748, Duvaux apporta à Versailles 9 panneaux représentant des figures chinoises différemment occupées sous des berceaux de fleurs du pays, de plusieurs couleurs, avec deux dessus de porte de même papier représentant une femme qui fait de la toile et un prisonnier qui s'échappe de ses fers. Donc voilà un peu ici, dans une collection particulière belge, qu'elle pouvait donner ce type de tenture dans une pièce, avec ces papiers peints panoramiques qui ouvrent vraiment la perspective, alors qu'en dessus de porte, vous avez un panneau représentant un sujet plus particulier et plus adapté dans ses dimensions à la taille réduite d'un dessus de porte. Il en va du même dans le second cabinet de la Roche-Guyon, que vous avez ici sous les yeux, un cabinet très étroit, vous voyez, qui fait à peine la largeur de la fenêtre. Et vous avez des papiers peints donc, sur les murs. Et même chose, on a découpé une partie d'un lait pour le placer en dessus de porte. Alors, ces associations de panneaux s'expliquaient très probablement par la petite hauteur des dessus de porte. Et si chaque lait représentait des personnages livrés à diverses activités dans des paysages, et si chaque lait peut se suffire à lui-même, toutefois, ces sujets prennent toute leur ampleur lorsqu'ils se développent sur plusieurs laits et lorsqu'on a plus de recul, en fait, pour pouvoir apprécier tout le panorama de ces ensembles et l'effet spectaculaire de ces papiers peints panoramiques. Alors l'association de décors variés créait des effets décoratifs plus riches et peut-être moins monotones. Un chef-d'œuvre dans ce genre avait probablement été livré en août 1753 pour la garde-robe de Louis XV à Bellevue, avec 37 châssis collés, je cite, de 3 feuilles à vases et à fleurs, 4 à figures, 9 plus petites formant lambris, 18 autres à pagodes en travers et 20 à fleurs. Donc vous voyez, l'association de ces nombreux papiers peints avec des motifs très différents permettait de donner une grande liberté, évidemment, à Lazare Duvaux pour composer des ensembles originaux et variés et évidemment coûteux. Alors, dans les plus raffinés, certains motifs étaient découpés dans différentes feuilles et collés sur les châssis dans des dispositions et des associations nouvelles, ce qui pratique, qui consommait bien sûr plus de papier. Ainsi, un panneau réalisé pour la Dauphine en octobre 1755 demanda plus de 8 feuilles de fleurs. Et je vous présente là un des panneaux de la Roche-Guyon, où vous reconnaissez un grand papier peint panoramique avec ces deux laits, mais dans la partie supérieure, vous remarquerez que les oiseaux et les papillons, dont vous avez un détail ici, ne sont pas du tout à la même échelle. En fait, ils ont été découpés dans d'autres feuilles et collés au-dessus pour animer un peu le ciel que vous avez en haut de ces panneaux. Alors, ces compléments étaient esthétiques, mais vous aviez également des compléments de peinture, des raccords qui apparaissaient parfois nécessaires. Alors, les différentes qualités de papier et les nombreux degrés de raffinement dans leur pose expliquent la très large fourchette de prix pour un châssis qui oscillait entre 6 et 50 livres, soit un rapport de 1 à 8. Alors, ces papiers peints étaient livrés généralement, lorsqu'on lit le livre de Duvaux, pour 8 garde-robes, 7 cabinets dont 2 de toilette, un entresol et un lieu à l'anglaise. Ils se retrouvent donc dans les mêmes types de pièces à Versailles, avec la garde-robe du dauphin, le cabinet en entresol de Madame Henriette, décoré en 1748, ainsi que le cabinet de Madame de Pompadour, orné en 1751. Les pièces de réception ainsi ornées de papier peint chinois demeurent donc exceptionnelles avec l'antichambre et le salon du fermier général d'Angers, mais il s'agissait de sa résidence de campagne de Puteaux et non pas de sa résidence urbaine. Ainsi, les résidences de campagne recevaient souvent de tels ensembles, comme la garde-robe de Louis XV à Bellevue ou son cabinet à l'entresol à Marly, tandis que Madame de Pompadour en fut placée à Champs et à Bellevue. De nos jours en France, les châteaux de La Roche-Guyon, de Dré à Curbigny en Saône-et-Loire, le Fayel dans l'Oise, que vous avez sous les yeux, ou Saint-Pierre en Canivet en Normandie, sont parmi les rares résidences présentant encore des décors de papier peint chinois du XVIIIe siècle encore en place. Ainsi, les contemporains appréciaient ces papiers peints pour la gaieté de leurs couleurs et leur pittoresque de leur sujet, mais ils ne les estimaient cependant pas comme suffisamment nobles, tant en raison de leur matière que du caractère anecdotique de leur sujet, pour prendre place dans des espaces officiels ou de réception, ou dans leurs résidences urbaines, dans leurs hôtels aristocratiques parisiens, pour lesquels les soieries et les boiseries étaient privilégiées. Les papiers peints apparaissent donc plus particulièrement dans les cabinets des appartements privés à l'accès réservé et dans les résidences de campagne, et il en allait de même pour les pièces d'ameublement. En effet, les papiers peints chinois étaient principalement employés au décor des écrans et des paravents, dont les surfaces planes permettaient d'apprécier le motif malgré l'indispensable découpe. Les écrans, dont vous avez ici à gauche un exemple sur ce tableau de Boucher, qui est extrêmement précieux, représentait donc 30% des livraisons dans le domaine du mobilier. Placé devant le foyer, il protégeait de la trop grande chaleur des flammes grâce à un panneau plein. La structure reprenait en fait le même principe que les châssis dont je vous ai montré. Ces papiers peints étaient collés sur une toile, elle-même montée en châssis, sur un châssis qui était ensuite... qui était ensuite glissé, vous voyez ici une fente et la feuille était glissée dans cette partie de l'écran et pouvait donc être montée ou descendue à volonté selon qu'on voulait plus ou moins de chaleur. Voilà ici les... le prix des écrans de ces vendus par Lazare Duvaux, ceux de Bois-Rougy composaient plus de la moitié de ces livraisons, suivaient les écrans de Demeurisier, moitié moins nombreux, et seuls deux écrans d'acajou massif, bois dont la mode commençait dans la fin de ces années 1750, qui augmentaient les prix régulièrement. Alors, les écarts de prix s'expliquent par la structure plus ou moins élaborée de l'écran. Si vous aviez ici, par exemple, un écran beaucoup plus complexe, avec une petite tablette qui se relève, vous avez là une bobèche pour mettre une bougie et éclairer. Si on veut lire, poser un livre et le lire devant la cheminée en plein hiver pour éviter les courants d'air et autres vents coulis. Alors ces écrans, donc évidemment, plus ou moins subtils, permettaient de varier les prix, et on avait ainsi une marge de manœuvre qui allait du simple au double, de 15 à 36, voire même jusqu'à 60 livres pour les pièces les plus complexes et les plus belles. Tout dépendait également de la qualité du papier employé. Le succès de ces écrans est confirmé par leur grand nombre chez le roi. L'inventaire général du garde-meuble de la couronne en 1775 en dénombre 64, très généralement également disposés dans les résidences de campagne comme à Saint-Hubert, à Trianon, à Fontainebleau ou à Marly. En 1788, à Versailles, seul le petit appartement du roi en abritait deux, l'un dans le cabinet de la pendule, qui était alors utilisé comme une antichambre, et le second dans le cabinet de la cassette, uniquement fréquenté par Louis XVI, donc un arrière-cabinet qui n'était pas du tout une pièce publique. Les paravents, de leur côté, constituaient l'autre type de meubles, ainsi ornés composaient un cinquième des livraisons de Duvaux, avec le paravent à feu de quatre feuilles, plus bas, d'un coût moyen de 60 livres, et les paravents, les grands paravents, avec un cadre en acajou. Ces paravents d'appartement plus haut comportaient 6 feuilles. Voilà ici un exemple d'un paravent conservé dans une collection particulière belge qui date du XVIIIe siècle. Alors, il coûtait entre 60 et 108 livres, voire jusqu'à 130 livres, pour ceux encadrés d'acajou, soit 4 à 10 fois plus cher qu'un écran. Leur taille supérieure, qui demandait bien sûr une plus grande hauteur de papier, explique en partie ce coût plus élevé. Alors certains étaient particulièrement raffinés, tels celui à 5 feuilles en bois doré, garni par bas de papier des Indes, sur les deux côtés, et le haut était garni de vitres. Et il atteignait le prix de 600 livres. Dans ce cas, le papier peint entrait moins dans le prix que les coûteuses glaces. Alors, quatre paravents apparaissent dès février 1673 sur les inventaires du garde-meuble, et en 1729, on en compte 10 ornés d'étoffes et encadrés de bois laqué ou d'étoffes. Comme ici, je retourne sur le détail de ce tableau, ce paravent de papier peint sur fond or, est encadré, vous voyez, très certainement d'une étoffe rouge, qui est une manière de faire plutôt chinoise, alors qu'en France on les encadre plutôt dans un châssis de bois. Alors 5 paravents de papier de la Chine subsistent en 1775. Il y en avait 2 à Fontainebleau, 2 au garde-meuble, donc en réserve en fait, et 1 à Versailles, dans l'arrière-cabinet ou le cabinet des dépêches, également simple pièce de passage. Donc vous voyez, à chaque fois, on les retrouve dans des cabinets assez peu fréquentés. Alors la commande d'un paravent pour Louis XV permet de suivre toute la procédure, depuis la fourniture des papiers jusqu'à la livraison par Duvaux. En effet, le 15 octobre 1750, Lazare Duvaux a reçu du garde-meuble 21 feuilles de papier de la Chine pour faire un paravent pour servir à Choisy. Ces feuilles avaient été achetées en octobre 1740 et gardées en réserve en fonction des besoins. Un mois plus tard, Duvaux a livré le paravent achevé, un paravent à 6 feuilles de 7 pieds de haut sur 2 pieds de large, soit 2,20 m de haut sur 64 cm de large, enfin 64 c'est la largeur de chaque panneau, en papier des Indes des deux côtés, dont on m'a fourni les papiers avec les équerres en bronze doré. La couverture des deux faces a évidemment utilisé un plus grand nombre de papiers, et le paravent a coûté, les ferrures et la façon ont coûté 75 livres à elles seules, ce qui fait entrer le paravent du roi dans les productions les plus coûteuses du Mercier. Ainsi, vous voyez, écran comme paravent, de même que les décors muraux couverts de papier peint chinois, se voyaient principalement utilisés dans les maisons de campagne, les cabinets particuliers et bien remisés dans les garde-meubles. Alors certains emplois de ces papiers peints se caractérisent par leur originalité. Duvaux fabriquait ainsi 4 devants de cheminée pour fermer le foyer durant l'été. Il a un écran à main également, qui a probablement fait l'objet d'une commande particulière. Mais le plus surprenant étaient les 2 niches tapissées de papier peint de la Chine pour les chiens chics des ducs d'Agenois et de Bouillon. Ces niches ont quand même coûté 40 et 48 livres, donc plus cher qu'un écran. Alors, ces réalisations de papier étaient fragiles en raison de la matière elle-même et de sa mise en œuvre sur une toile tendue qu'un choc pouvait crever. Ainsi, Duvau effectuait d'ailleurs régulièrement des raccommodages et on retrouve des quantités de papier peint en réserve justement pour pouvoir pallier à ces accidents et pouvoir faire des réparations. Et c'est ainsi qu'à la Révolution, les commissaires du Conseil exécutif ont retrouvé dans les réserves du château de Marly, donc en réserve pour le cabinet en entresol décoré de papier peint de la Chine, des papiers peints qui, l'ayant bien examiné, ces commissaires ont pensé, vu sa beauté et sa conservation, qu'il était convenable de le garder pour la République, pouvant faire avantageusement la tenture d'un cabinet où l'on déposerait les objets précieux de la Chine. La réserve était donc suffisamment conséquente pour pouvoir encore garnir toute une pièce, et les réactions des commissaires témoignent de l'estime qu'ils portaient encore à ces productions. Ils en ont admiré la qualité et estimé l'ensemble digne d'être réservé pour ce qui allait être tout simplement le futur musée du Louvre et pour présenter des collections d'objets de la Chine dans le but ainsi de créer un lieu dont le décor était convenable au contenu. Alors le papier peint chinois, vous voyez, est absent ou apparaît comme quantité négligeable dans l'esprit du personnel de la Compagnie française des Indes orientales, dans les cargaisons, dans les listes des cargaisons, il apparaît très très rarement, et dans ses bénéfices. Pourtant, il a connu un grand succès commercial tout au long du XVIIIe siècle. Le charme de l'exotisme ainsi que son esthétique fantaisiste et colorée répondaient alors au goût rocaille pour l'originalité, le pittoresque et pour les couleurs claires. D'ailleurs, l'abbé Rénal n'expliquait pas autrement sa vogue. Je cite « Il plaît singulièrement par les formes, l'éclat et la variété que l'industrie a su lui donner. » Dans les années 1770, ce même auteur constatait l'essoufflement de la mode de ces papiers peints chinois, concurrencés par les productions anglaises puis celles du royaume. Leurs dessins, motifs et coloris, plus adaptés au canon esthétique européen et au goût du moment, répondaient à la vogue néoclassique, laquelle paraît moins sensible à la fantaisie des papiers peints chinois. En témoigne ainsi l'absence de décors et d'éléments mobiliers couverts de papier peint chinois à Versailles en 1765 et en 1776, à l'exception en 1788 des deux écrans et des deux paravents dont je vous ai déjà parlé. Alors si l'usage du papier peint chinois se limitait aux décors murals et aux écrans et aux paravents, son influence fut en revanche très importante. Esthétique d'abord, car ces papiers peints participèrent très certainement au développement du goût pour les couleurs claires au XVIIIe siècle et à leur imitation avec la peinture sur soie, et je vous présente ici un lait de... Voilà, l'ordinateur faisait des caprices. Un lait de taffetapin conservé au mobilier national qui a été réalisé à Lyon vers 1760 et qui reprend, vous voyez, ces motifs et cette disposition de ces papiers peints chinois pour faire ce que l'on appelait des Pékins à l'imitation de la Chine. Donc là, on n'est pas dans du papier peint, on est dans de la peinture sur soie. L'influence technique fut encore plus spectaculaire avec une stimulation de l'artisanat pour copier, voire pour dépasser ces productions si appréciées et dont l'amour-propre européen était piqué de ne pouvoir y parvenir. Comme les porcelaines ont stimulé les recherches sur la faïence puis ont permis la création de la véritable porcelaine en Europe et les lacs furent à l'origine du vernis Martin, le papier peint chinois a incité les manufacturiers à dépasser le papier dominoté et les recherches sur le papier peint à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ont abouti au développement des grandes manufactures de la fin du XVIIIe siècle, donc une des plus célèbres est celle de Réveillon. Les productions nationales ont peu à peu supplanté les importations chinoises, lesquelles ont retrouvé tout de même une certaine vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec la nouvelle mode de la Chine et du Japon lors de l'ouverture de ces pays à l'Europe à partir des années 1850. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Marie Zinska a bien eu un décor chinois dans ses petits cabinets. Oui. L'emplacement de la méridienne ou de la bibliothèque.
Oui, mais c'était des boiseries peintes.
Ah, c'était des boiseries peintes.
Pas du papier peint chinois.
Pas du papier.
Non.
Et dans le boudoir de Villarsault, je ne sais pas si vous voyez.
Oui.
Je ne sais plus si c'était du papier peint ou de la tapisserie.
Je ne l'ai pas dans l'œil, je ne vous cacherai pas.
C'était il y a un an.
J'y suis allé il y a deux ans. Et... je ne me souviens pas. La difficulté, c'est qu'effectivement, ces papiers peints chinois subsistent rarement parce que, d'abord, ça, à la lumière, les couleurs pâlissent. Ensuite, le papier, ce n'est pas une matière noble. Donc, les modes évoluent et on peut les remplacer plus facilement que une soirée où on fait plus attention, par exemple. Ce qui explique pourquoi on en trouve assez rarement en place encore actuellement. Il y en a quelques-uns dans des châteaux, surtout en Normandie, mais parfois lorsqu'on creuse un peu l'histoire du château, on se rend compte que ces papiers peints qui sont dans des grands salons de réception ont plutôt été posés au 19e siècle. Au 18e siècle, c'est très rare d'avoir des papiers peints chinois dans des pièces de réception.
Et la fabrique se faisait surtout à Lyon ?
Pardon ?
La fabrique se faisait à Lyon ?
Alors pour les soies peintes, oui. Oui. Pour les papiers peints chinois, c'était plutôt canton. Et c'était du papier peint à la main, c'était pas du tout imprimé à la planche de bois, hein. Contrairement au papier peint occidental. C'est une autre technique.
Il y a demandé justement à partir de quelle date les papiers peints panoramiques par Zuber, par exemple, ont commencé à exister.
C'est début 19e. Quand la technique de ces papiers peints, qui s'est vraiment développée à la fin du 18e, Réveillon, etc., s'est vraiment affinée, on a pu avoir désormais une plus grande précision pour les différentes planches, que à chaque couleur correspond une planche. Donc il fallait vraiment ne pas rater pour éviter les décalages. Et c'est à partir des années 1820, la restauration en fait, que vraiment ces grands papiers peints de Zuber se développent.
Et est-ce qu'il y a des échantillons au musée des arts décoratifs ?
Alors, il y a quelques échantillons au musée des arts décoratifs de papier peint chinois, effectivement. Vous en avez au musée de Lorient. Il y en a à Lorient, du musée de la Compagnie. Pardon ?
À Port-Louis.
À Port-Louis, oui. Et vous en avez quelques pièces au Victoria Albert Museum ou ce genre d'endroit. Mais il en existe finalement assez peu parce que c'est fragile et que c'est pas une porcelaine avec une matière beaucoup plus noble que le papier.
Pardon ? Est-ce que le musée Guimet, il n'y en a pas ?
Au musée Guimet, non, il n'y en a pas. En fait, le musée Guimet, c'est un peu ce décalage d'état d'esprit au musée Guimet qui a été réalisé par des amateurs d'art chinois, des sinologues, etc., etc., estiment que tous ces produits d'exportation, c'est la quincaillerie, et ça ne représente. C'est ce qu'on m'a dit à l'ancien conservateur, lorsque j'étais étudiant, je suis allé le voir parce que je travaillais sur les porcelaines d'exportation et ceux qui étaient présentés à Marly. Le conservateur m'a dit oh là là, mais tout ça, c'est de la quincaillerie d'exportation, ça, c'est pas très intéressant. Bon, j'ai remballé des bibelots, mais ce qui explique en fait, Guimet, on est plutôt dans des sinologues ou des nipponologues qui regardent essentiellement la création pour le marché intérieur et tous ces produits d'exportation n'ont pas grâce à leurs yeux.
Est-ce que les Chinois ont jamais utilisé les papiers peints pour eux-mêmes ?
Alors si, mais pas ceux-là. On en trouve, mais pas aussi. Alors, vous avez des peintures qui sont des peintures sur soie cette fois-ci, mais les papiers peints tels que ceux qui étaient exportés, c'est pas dans la tradition chinoise, ni dans la tradition japonaise d'ailleurs. Si vous allez au Japon, vous avez des murs qui sont effectivement tapissés de papier, ou même les ouvertures, mais c'est du papier blanc, pas peint. Et on accroche des peintures. En revanche, on accroche des peintures que l'on retire en fonction de la saison, d'un événement particulier, mais pas le papier.
Je vous propose éventuellement de continuer à diviser devant un verre de cidre qui est de votre côté. Et vous pourrez vous plonger dans toutes ces merveilles, parce que cette conférence, en fait, est le résultat d'un livre qu'elle a écrit pas passé sur ce sujet. Et je pense que ça mérite d'être creusé.
L'ouvrage est disponible en bibliothèque depuis jeudi dernier. Il est en librairie, pardon. En bibliothèque. Depuis jeudi dernier, il est vraiment tout chaud. Merci à vous.
Je pense que c'est une imitation de la version française.
Ah ouais, c'est ça. Je pense que c'est une imitation.
Bonjour.